Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC.
Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts.
C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur.
Monsieur, vous êtes un con.
After Paris.
Nicolas Jamin.
Salut à toi supporter du Paris Saint-Germain et bienvenue dans le podcast After Paris avec cette semaine Coach Courbis, Daniel Riolo et Fred Armel. Messieurs, on revient cette semaine sur le fiasco parisien à Newcastle. Qu'a voulu faire Luis Enrique avec son 4-2-4? Était-il forcément voué à l'échec? Va-t-il s'entêter? Vous écoutez le podcast After Paris, c'est parti. Alors coach, on dit toujours que c'est plus simple de tomber sur une idée de jeu, sur des choix de coach après une défaite. Est-ce que pour toi, ce 4-2-4 était forcément voué à l'échec?
Il y a des périodes, que ce soit pour un joueur ou pour un entraîneur, qu'on est inspiré, d'autres on est un peu moins inspiré. Même pour un changement, des fois, ben, tu fais rentrer un joueur qui marque un but et des fois, tu fais rentrer un joueur qui marque contre son camp. Donc, ça fait partie du métier. Mais après, nous sommes quand même des gens avec un petit peu d'expérience, un petit peu de compétences. On est capable de voir les choses à notre façon, et de pouvoir en discuter avec l'entraîneur de Paris Saint-Germain, qui pour moi est un très bon entraîneur. Mais après, on va parler pas seulement de ses qualités, on va parler de ses défauts.
Daniel, même question, c'était forcément voué à l'échec ou pas? Tu l'avais dit toi aussi. Écoute, d'ailleurs, sur l'antenne, j'espère qu'il ne va pas reproduire son 4-2-4 en Ligue des Champions.
Parce que ça me paraît insensé. Écoute, tu sais, moi, l'entraîneur est un génie, il invente. Ok, très bien. À un moment, il faut aussi regarder, parce que je veux bien qu'il y ait des gens supérieurs aux autres, il n'y a aucun problème à admettre ça. Mais quand tu regardes dans un contexte précis tout ce qui se fait, bah, je ne dis pas qu'il faut forcément être un suiveur tout le temps, et tu as le droit d'innover. Mais sur les 10 dernières années, les équipes qui ont été plutôt marquantes, tu prends le Barça, où tu avais donc deux joueurs extraordinaires de ballon, le troisième l'était aussi, Busquets, et tu avais un milieu à trois. Le Real Madrid, Casemiro, Modric, Kroos, trois milieux de terrain. Le Liverpool de Jürgen Klopp, pareil, que ce soit avec Milner, Anderson, Fabinho, Wijnaldum, quand il s'est inséré ensuite, trois milieux de terrain. Qu'est-ce qu'on peut citer encore? La petite épopée de l'Ajax, trois milieux de terrain. Tottenham qui va en finale, trois milieux de terrain. Tu n'as pas trace, en fait, d'équipe qui arrive avec deux milieux de terrain qui, en plus, ne seraient pas des gros travailleurs et uniquement des mecs capables d'avoir un volume de jeu stratosphérique, parce que dans ce cas-là, bon, je voudrais bien admettre une petite ouverture, mais une équipe qui, avec quatre attaquants, pas quatre attaquants transformés parce que après un an ou deux ans dans un système, ils auraient l'habitude de jouer ensemble et ça fait des joueurs qui seraient capables d'avoir un volume de jeu monumental avec plus de 11 km chacun de course possible coordonnée pour faire des compensations. Non, là tu débarques, Ligue des Champions, t'arrives, tu mets deux attaquants, quatre attaquants, tu mets tes deux milieux de terrain qui ne sont pas, à part Ugarte, qu'on va mettre dans la catégorie travailleur et également joueur. Zaïre Emery, c'est un gamin. Hein. Il a même pas 18 ans. Et tu lui demandes donc de compenser là. Et derrière, tu veux pas qu'il y ait des défenseurs fébriles parce qu'ils savent pas où mettre le ballon dans les sorties de balle et dans les relances. Et tu as tes quatre attaquants qui sont quasiment alignés, qui forment une ligne. D'ailleurs, c'est exactement comme à Clermont. Et tu veux que ça marche?
Mais
en fait, ça aurait été un miracle que ça marche. Il aurait fallu que l'équipe en face, elle soit nulle à chier et qu'en fait, tu puisses, de par son pressing, essayer de la trouer, ouvrir le score, ce qui aurait peut-être occasionné le fait qu'elle se livra encore plus et que toi, tu puisses encore profiter. Il aurait fallu des circonstances extrêmement favorables pour que ça marche.
Daniel,
mais comme on s'attendait tous à ce que Newcastle te presse beaucoup, franchement, quand j'ai vu les quatre attaquants, quand j'ai vu le schéma, et là, on va dévier avec Fred sur la personnalité de Luis Enrique. Là, je me suis dit, et dans le générique, tu sais, tu as eu des propos de Emery, Tuchel et Galtier. Ouais. Là, je suis en train de me dire, bordel, ça fait 2 mois qu'il est là, et lui, comme les autres, il est déjà en train de devenir fou.
Doucement, attention, doucement quand même, Daniel. Il y a eu des choses très positives depuis le début de la saison, moins positives, il y a Clermont, il y a Newcastle.
Et en trois matchs, il a tout bousillé maintenant. Moi, il y avait Dortmund, j'avais l'impression, c'est bon. Les trois milieux de terrain.
C'était l'exemple.
Moi, même s'ils sont. Même s'ils
oui, mais lui, il a l'exemple du classique, du Marseille, du PSG Marseille aussi.
C'est un match de championnat qui doit te servir de modèle. C'est un match de Ligue des Champions qui doit te servir de modèle.
Les gars, coach, on est là aussi pour comprendre pourquoi il a fait ce choix. Voilà, parlons de jeu, parlons de tactique.
Je ne le comprends pas.
Coach, toi, qui as entraîné pendant 30 ans sur des bancs, comment tu lis ce choix de Luis Enrique? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu mettre en place? Ou est-ce simplement un péché d'orgueil, comme Daniel le disait? Je veux moi aussi créer, être un génie.
Mais je vois que ça.
Mais il est suicidaire, alors c'est quoi l'histoire?
Mais tu peux être prétentieux et pas suicidaire.
Mais Guardiola l'a aidé pendant des années. Pourtant, Dieu sait que je l'adore.
Et Guardiola, avec son faux numéro 9, faux numéro 6, quand il a mis des vrais 9 et
il a gagné.
Et même vrai 6, bizarrement, il a gagné.
Sans trahir sa volonté de jeu, d'ailleurs. Hein.
J'ai essayé, Nicolas, pendant de longues années, à combattre certaines expressions que je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Je t'en donne une. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs qui sont sur le terrain. Mais je vais te donner un seul exemple. Là, Luis Enrique, il ne débarque pas avec l'effectif de Paris Saint-Germain il y a 48 heures. Il a quand même vu le profil de ses joueurs, les qualités, les éventuels défauts qu'il va falloir masquer, parce que ça aussi, c'est le boulot d'un entraîneur. D'un entraîneur, ce n'est pas surprendre en mettant 4 joueurs offensifs et jouant 4-2-4, qui était peut-être une organisation qui pouvait marcher il y a une trentaine d'années.
En 58, il y a plus de 30 ans.
Et donc on te dit, ouais, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Je te donne un seul exemple. C'est les joueurs qui sont sur le terrain, d'accord. Ugarte, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un numéro 6 aussi bon que ça. Très longtemps. Et pourtant,
tu parles au PSG ou de manière générale?
De manière générale.
Ouais, je crois qu'il a raison, Roland.
Donc, si tu veux, on a même donné, dans l'évolution du football, dans notre époque, le nom de ce poste-là, Sentinelle. La Sentinelle, quand tu as la chance d'avoir un Ugarte qui, pour moi, est au carrefour, j'appelle ça un carrefour, parce que je n'ai rien trouvé de plus précis pour arriver à me faire comprendre, et qui est en plein cœur de ton équipe, en même temps, avec un balayage 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche, c'est un petit peu l'essuie-glace du pare-brise que doivent être la charnière centrale. Et grâce à Ugarte, la charnière centrale ne peut être que meilleure. Donc, tu as déjà trouvé une formule avec Ugarte, Skriniar, qui est pour moi moyen bon, mais c'est pas extraordinaire, mais qui est nettement meilleur quand il y a Ugarte en sentinelle, et Marquinhos, qui était en train de revenir en forme. Eh bien, bousillez ça pour ne pas savoir avec les compétences qu'il doit avoir, j'espère pour lui, qu'un numéro 6, seul, sentinelle, avec un balayage à droite à gauche, ça, ce que fait Ugarte, c'est tout simplement exceptionnel. Le transformer en pensant qu'il est toujours au même poste, avec un copain à côté et jouer à deux milieux, qu'on appelle ça les 6-8, box-to-box, 2-2, hein, tu vois. Donc ça, si tu veux, annulons. Et si, par exemple, Luis Enrique, et là aussi, moi, je peux être prétentieux, ben, ne sait pas quoi faire, il écoute RMC, bon, les podcasts, et je te promets, il va progresser lui aussi.
Bon, Fred, est-ce que tu optes pour la théorie de l'orgueil? Ou alors de la volonté, du génie tactique, selon Luis Enrique?
Alors, c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte. Moi, je voyais que dans le contexte espagnol, c'était quelqu'un qui, dès la première critique, s'enfermait dans ses choix.
Absolument.
Je voulais le voir dans un autre contexte, parce que le contexte espagnol, c'est l'opposition Real-Barça, c'est son passé, etc. Il est vierge en France. C'est-à-dire qu'il n'a aucun ressentiment contre des clubs français, contre des journalistes français en France. On va voir ce qui se passe, mais on a l'impression quand même que dès les premières critiques, il a le même comportement qu'en Espagne. Moi, je ne l'ai jamais vu en Espagne jouer avec deux milieux de terrain comme ça. C'était au Barça, de toute façon, on ne pouvait pas trop toucher. C'est 4-3-3, voire 3-4-3.
Mais même avec la sélection, il jouait avec trois mecs au milieu. Hein.
Bien sûr, avec deux seuls comme ça au milieu,
surtout que les trois milieux. Tu as un effectif avec 5 ou 6 milieux. Les trois milieux qui sont sortis du lot, ils sont en plus qu'ils sont bons, ils sont complémentaires.
Exactement.
Il y a Ugarte, le jeune
Zaïre-Emery
et Vitinha. On peut trouver mieux, évidemment, mais c'est difficile.
Il a préféré Barcola.
C'est difficile de trouver mieux.
Ouais. Mais alors après, c'est quelqu'un, on parle d'entêtement. Oui, c'est quelqu'un qui s'entête facilement. Et moi, je suis persuadé que les critiques, et notamment celles de Daniel qui ont fait beaucoup parler, celles d'hier soir, automatiquement, elles vont lui être rapportées. Et donc, il va s'enfermer. Parce que c'est un jeu avec lui aussi pour s'unir au groupe.
Oui, mais ça, c'est une limite dans la personnalité. Quand tu ne veux pas parler ou quand tu méprises l'interlocuteur,
exactement,
à ne jamais vouloir expliquer ta tactique, il y a beaucoup d'entraîneurs qui meurent.
D'ailleurs, on est quasiment 24 heures après le match, il n'a toujours pas expliqué ce qu'il a voulu faire.
Alors, d'ailleurs, vous savez ce qu'il faisait en sélection espagnole? Il ne disait pas grand-chose. Oui, en conférence de presse, et il faisait un tweet le soir où il en disait beaucoup plus aux supporters,
les amis,
qu'aux journalistes.
Vous pensez quand même pas une seconde que Luis Enrique, comme Guardiola à une certaine époque, va vous dire après un match, eh bien oui, j'ai voulu trouver une formule que seul Luis Enrique pouvait trouver, parce que je voulais passer pour un génie. Ça m'emmerde de
dire comme ça.
Les joueurs à leur
poste. Ancelotti l'a fait il y a 10 jours.
Ce qui m'intéresse, c'est faire un truc qu'on puisse dire, il y a seulement Luis Enrique capable de le faire.
Bon, toi Fred, tu me dis qu'il va s'entêter encore. C'est ta théorie, tu penses qu'il va continuer là-dessus? Moi j'ai du mal à y croire quand même.
En Espagne, dans le contexte espagnol, parce que c'est celui que je connais, celui où je l'ai analysé, où je l'ai vécu, il s'entêtait pas simplement sur, en fait il a jamais eu vraiment de problème sur le système tactique, il y a eu des problèmes sur des joueurs, par exemple du jour au lendemain faire disparaître Jordi Alba qui était le meilleur latéral gauche pour mettre Lucas Digne, quasiment sans explication, mettre Jordi Alba sur sa liste noire quand il devient sélectionneur espagnol pendant de nombreux mois après les revenus, par exemple ne prendre aucun joueur du Real Madrid lors de ses pendant des mois et des mois quand il devient sélectionneur. Tout ça parce que il avait un passé au Real et que ça s'était mal, il était mal parti, qui était devenu
ça,
très anti-madridiste.
Tu supputes ça.
Non, mais je t'explique.
Il y a
c'est
des traits de personnalité.
Je termine. Ce n'est pas que je suppute, c'est que comme par hasard, à partir du moment où la presse espagnole l'accusait d'être anti-madridiste parce qu'il ne prenait pas de joueurs du Real, il a été de nombreux mois sans prendre aucun joueur du Real. C'est-à-dire que quand tu lui reproches quelque chose, quand tu fais
c'est
une remarque sur quelque chose, c'est là qu'il s'entête.
Parce qu'il veut avoir raison et montrer qu'il avait raison, même quand il s'est planté initialement.
Mais par exemple, même quand il dit « je suis le principal responsable », mais hier soir, il n'explique pas ce qu'il a voulu faire.
Il n'y a pas besoin de le dire, on le sait.
Il ne dit pas qu'il fait une erreur.
Non.
Carlo Ancelotti, il y a 10 jours, il invente un truc avec 5 milieux de terrain sur la pelouse de l'Atlético. Il perd 3-1, il dit « je suis responsable et je me suis trompé ». Voilà la différence entre les deux hommes.
Je suis responsable, dans cette phrase-là, il y a un truc presque de l'ordre de l'ego également.
Ouais, bien sûr.
C'est moi, c'est ma décision.
C'est moi, laissez-moi tranquille.
C'est moi qui tire les ficelles, laissez-moi tranquille.
C'est moi qui décide, fermez vos gueules. C'est ça.
Non, mais en plus de ça, je pense que c'est même pire. Parce que quand justement tu lui poses cette question... Mais il te regarde comme si tu étais l'imbécile et l'idiot du village.
Voilà.
Et lui, il est en train de te dire, mais attends, mais en plus, c'est pas seulement ça. C'est que je vais même continuer à l'essayer pour te démontrer que c'est moi qui ai raison.
Et il n'est pas impossible qu'à dimanche, ils remettent l'équipe, tu vas voir.
Et dire simplement...
Tu mets une pièce là-dessus, vraiment?
Dire simplement... Oui, mais effectivement, tiens, dans le métier d'entraîneur, des fois on est en forme, des fois on n'est pas. Là, j'ai vu les choses d'une certaine façon, je me suis planté complètement.
Il a fait, il est fracassé.
Et on progresse à tout âge et dans toutes les fonctions. Et je pense que cette erreur-là va me faire progresser parce que maintenant, je connais encore mieux, mon groupe.
Repasser en 4-3-3 à Rennes ce week-end, pour lui, ce serait un aveu d'échec, en fait. Moi, il ne le supporterait pas de donner raison à la presse qui méprise, on peut en parler aussi.
Si le PSG gagne à Rennes en 4-3-3, tout le monde va dire « Ah, ben voilà, il a retrouvé tout ». Et ça, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de supporter ça.
Mais si le PSG gagne en 4-2-4 à Rennes,
pire,
il dira « Ben voilà, vous voyez ».
Exactement.
Et ben voilà, ben nous on y répondra déjà.
Remontre-le nous en Ligue des Champions et on verra.
Excusez-moi, mais Newcastle, c'est un petit peu différent.
Et surtout, il n'y a pas d'équipe qui gagne au niveau européen dans ce schéma. Avec 4 attaquants, ça n'existe pas. Donc, il ne va pas l'inventer, ce truc-là.
Fred, un mot sur rapport à la presse également, c'était houleux en Espagne, tu l'as dit. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est une sorte de complexe de supériorité, de mépris pour des gens qui n'ont pas travaillé sur les terrains comme lui, qui n'ont pas été joueurs, qui n'ont pas été entraîneurs, c'est ça?
Mais surtout, ça date de son départ au Real Madrid. C'est-à-dire quand il quitte le Real Madrid vraiment très très mal et qu'il va au Barça, puis c'est quelqu'un qui, bon, qui a une certaine personnalité. Moi j'aime bien aussi, tu te souviendras, Daniel, de Tassotti, hein, et du Mondial, hein, quand il jouait avec l'Espagne et le coup de coude qu'il avait pris dans le nez. C'était un guerrier sur le terrain, c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien, c'est quelqu'un qui ne laissait jamais personne indifférent. Et il a commencé à développer peut-être pas une haine, mais enfin, en tout cas un rejet de la presse quand il a quitté le Real Madrid. Et donc il n'aime pas les journalistes. Il n'aime pas les journalistes, donc il considère déjà que nous ne connaissons rien au foot, mais en plus que nous sommes que nous sommes gênants dans l'histoire. Et toute cette histoire de Twitch, c'était vraiment pour dire, mais bientôt on n'aura plus besoin de vous, en fait.
Bon, à la limite, c'est pas un problème. En réalité, seul problème, c'est qu'il explique sa façon de penser, sa façon d'écrire un match ou d'écrire ouais. une équipe aussi.
Mais nous sommes là
sauf
pour
qu'il
transmettre
n'est pas dans un rôle
les
pédagogique,
choses.
Comme beaucoup d'entraîneurs le font de plus
non,
en
non,
plus.
Non.
Notamment
non,
la nouvelle
il aime
génération,
le conflit.
Quoi.
Et il aime le conflit.
Il aime le
il
conflit.
Aime le conflit. Bon. Il aime que la presse soit contre l'équipe pour souder les joueurs. Mourinho l'a souvent fait,
c'est
ça aussi.
Vieille méthode éculée,
ringard. Tu crois en ça? Je pense pas. Moi.
Ah oui, ça, il l'a fait beaucoup. Hein.
Si. Ouais, mais les joueurs sont moins naïfs qu'avant,
bien sûr
peut-être
que ça
aujourd'hui,
existe, ça.
Désormais.
Bien sûr.
Bon, j'ai l'impression qu'on parle d'un entraîneur incompétent, les gars, aujourd'hui.
Ah non,
on parle
pas
quand même
du
d'un
tout.
Mec qui a gagné,
pas du
qui
tout.
A gagné
ah non,
en Barça.
On parle d'un entraîneur
de l'équipe nationale d'Espagne en demi-finale de l'Euro.
Non, non, on parle de quelqu'un de prétentieux.
C'est pas très prétentieux.
Oui, mais incompétent, c'est pas pareil.
C'est un très bon entraîneur.
Et qu'on oublie... Il est aussi bon que prétentieux.
Non, il a des très bonnes idées, mais ce vice-là, je signale que ça a perdu Mourinho. Mourinho était un entraîneur au-dessus, mais se braquer contre les gens, la presse, ça a fini par le perdre. Cette opposition à Guardiola, ça l'a perdu. Guardiola, dans ses choix obstinés, il a tardé à regagner la Ligue des Champions à cause de ça. Et c'est pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il s'est trahi dans ses idées de jeu, puisqu'on a admiré son City vainqueur de la Ligue des Champions. Mais quand il a remis des choses assez basiques comme un 9, un 6, ça s'est mieux passé. Déjà, il y avait eu l'idée de mettre un bon gardien, il y avait eu l'idée de la charnière centrale, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles il voulait inventer et il a dû revenir dessus. Tous les entraîneurs qui se sont braqués comme ça. Luis Enrique, quand il gagne en 2015 avec le Barça, n'oublie pas que c'est un Barça stratosphérique qui sort déjà de 5 années où tout tourne bien. Moi, j'ai
oui,
jamais
mais tu vas me permettre de dire qu'il avait réussi à insuffler un jeu parfois un peu plus direct.
Ouais,
ça avait été
bon,
tactiquement une réussite.
Ça va,
mais
ça
base,
tournait déjà pas mal. Mais dans la foulée,
bah,
il a eu beaucoup de mal, Luis Enrique. Il a eu beaucoup de mal et avec l'Espagne, il s'est également entêté avec un jeu de possession trop systématique. Ouais. Il n'a pas non plus... c'est pas non plus le génie qui a tout gagné. Hein. Attention, il a connu des échecs et son caractère peut lui coûter très cher. C'est quelqu'un qui a un caractère tordu. Il faut faire très attention. Et tout ce qu'a dit Fred est vrai, le Twitch, le mépris des journalistes. Et tout. Et à notre époque, je ne sais pas si tu vas loin avec ces attitudes-là. Je pensais qu'il changerait au PSG. Ce qu'il montre depuis trois matchs m'inquiète vraiment beaucoup.
Bon, pour finir, les gars, messieurs, il doit revenir donc à un 4-3-3. C'est plus raisonnable.
Oui, mais je ne sais pas s'il le fera. Je ne sais pas. J'ai un doute pour
Rennes.
Et
s'il le fait, quel doute. Doit être ce 4-3-3
bah,
c'est très simple.
On le sait, il est simple, il est écrit.
On sort Barcola et on remet Vitinha.
Non, attends. Tu mets les trois milieux de terrain, mais après, si t'es un entraîneur...
Et non, c'est quoi?
Si t'es un entraîneur... Bon, Vitinha, Ugarte, Zaire, Emery, parce que les trois jouent bien. Il n'y a pas de problème avec les trois. En revanche, les trois devant.
Voilà, c'est ça.
Là, il va falloir analyser les performances,
oui,
parce que l'entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui doit regarder comment sont les mecs sur le terrain.
Les trois de devant... Il y a aussi deux sur trois qui vont se partager le boulot. Tu vas démarrer avec un et l'autre, il va rentrer à sa
Roland,
place.
Mbappé, on a le droit de savoir s'il est en forme ou pas.
Ah ben,
en ce moment, il n'est pas en forme du tout.
Complètement.
Bon, donc déjà, tu regardes l'état de forme des uns et des autres. Donc, on les connaît. Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, Barcola.
Ramos.
Eh ben, tu regardes ceux qui sont en forme. C'est tout. Avant de les faire jouer. Si Mbappé, clairement, il n'est pas en forme et lui, il nous dit il est à 100%. Non, il n'est pas à 100%. Ben, tu as le droit de le sortir. Et Dembélé, qui fait que des mauvais matchs depuis qu'il est à Paris, ben, de la même façon, tu vas dire écoute, tu vas aller un petit peu sur le banc et puis on va voir si on ne fait pas tourner un petit peu. Tout simplement. Il faut aussi regarder. Le problème, il n'est pas derrière et au milieu. Le problème, il est également devant. Les mecs de devant ne sont pas performants depuis le début de la saison. C'est vrai.
Fred, Luis Enrique, par le passé, s'est déjà privé de Messi, qui était pourtant disponible. Tu penses qu'il est capable de se priver d'un Mbappé qu'il estimerait seulement à 70% de sa forme?
Alors, il s'est privé de Messi une fois, parce que Messi était rentré de vacances un peu plus tard. C'était en janvier 2015. Il était rentré des fêtes de Noël tard d'Argentine. Il était arrivé la veille. C'était un match important sur la pelouse de la Real Sociedad à Saint-Sébastien. Il était sur le banc. Le Barça a perdu, il est rentré en deuxième période, le Barça a perdu. Le président Bartomeu est allé voir Messi en disant « Est-ce que tu veux la tête de Luis Enrique ?» La réponse de Messi « Non, je veux simplement qu'il foute la paix. » Et à partir de ce moment-là, il a foutu la paix à Messi et Messi a joué quand il voulait. Mais le pouvoir de Messi au Barça était tellement incroyable que voilà, n'importe qui aurait dû faire ça. Quoi. Il a, est-ce que, savoir, c'est, est-ce qu'on compare le pouvoir de l'époque de Messi au Barça avec le pouvoir d'Mbappé au PSG aujourd'hui ? Ça,
c'est un peu différent quand même.
Bon, en tout cas, il chat échaudé craint l'eau froide. Mettre Jordi Alba sur le banc, ça n'a gêné personne. Mettre la star de l'équipe, c'était autre chose. Il s'en est vite mordu les doigts et ça n'a duré qu'une mi-temps. Hein.
Bon, je crois que le mec, il n'est pas spécial au point de ne pas avoir une discussion avec Mbappé et de trouver en tête-à-tête avec Mbappé la bonne solution pour le match de Rennes. Ça serait quoi, un exploit, ça?
Bon, on verra, hein, mon Dieu.
Mbappé, je te l'annonce, sera titulaire dimanche soir au Roazhon Park contre le Stade Rennais. Bon, merci Daniel, merci coach, merci Fredo.
Salut les amis.
À la semaine prochaine pour le débrief notamment de ce match entre Rennes et le PSG.
RMC After Paris.